par la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur qui aura pu se dire de ma vie, la croix seule me suffit. Je vous l'ai dit dimanche dernier, en présentant la Sainte Seine, avec mon frère Michel, avec le seul, mon épouse, on était un culte séclavé pratiquement que du jeune, et je disais au fond de moi-même, Seigneur, bénis-les abondamment, Seigneur, ils ont toute la vie devant eux. À ce moment-là, une voix est venue me dire, oui, mais ta vie à toi n'est pas finie. Vous savez, quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est jeune homme, une jeune fille, quand on est jeune adulte, on ne pense pas à une certaine vie. Je vous le dirai tout à l'heure, je pense que vous l'avez compris. On pense à la vie sur cette terre. On pense à fonder une famille, à avoir des enfants. On pense à avoir un foyer solide. Hein, si on est un homme et une femme digne de ce nom, et surtout si on est chrétien. Mais en marchant davantage au fil des années, il se passe quelque chose qui ne se passait pas dans ma vie autrefois. C'était comme vous. C'est qu'on se met à penser à une autre vie. On n'a pas abandonné notre vie terrestre, non. Puisqu'on est encore sur cette terre. Puisque le Seigneur me disait, ta vie, elle n'est pas finie. Mais on ne peut pas s'empêcher d'y passer. Et vous savez, j'oserais dire à ceux qui sont des adolescents ici ce matin, des adolescentes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des jeunes adultes, et même à ceux qui sont rentrés dans l'âge, quelque part, et que je ne sois pas si âgé que ça, merci Seigneur, il y en a de plus âgés que moi, on a besoin de penser à la vie éternelle. Il n'est pas écrit la vie éternelle, c'est qu'il te promesse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, la vie éternelle. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur. Est-ce que déjà aujourd'hui, je vois mon Seigneur? Suis-je capable déjà de voir quelque part mon Seigneur? Est-ce que je suis capable quelque part, dans les moments les plus difficiles, dans les circonstances peut-être les plus dures de ma vie, ou même dans les moments où je sais que tout va bien, le soleil brille, les étoiles luisent, et la vie se déroule tout à fait normalement. Est-ce que je suis capable vraiment de dire au Seigneur, aide-moi à rentrer dans cette vie éternelle? Vous savez, la vie éternelle, quelque part, elle est cachée à mes yeux. C'est vrai, on ne la voit pas. Vous pouvez me dire, mais d'ailleurs, est-ce que tu vas voir la vie éternelle? Est-ce que tu peux me la définir? Est-ce que tu peux me la montrer pour que j'y croie et je rentre dedans? L'homme terrestre, l'homme naturel, quelque part, se pose pas tellement cette question. Pourtant, j'oserais dire qu'il se la pose au fond de lui-même, à un moment ou à un autre de son existence. Il est très souvent influencé par ce qu'il voit, et c'est vrai que souvent vous êtes influencé par ce que vous voyez. C'est vrai qu'on est influencé par la matière, on croit à ce que l'on touche, à ce que l'on voit. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, je crois vraiment à Jésus-Christ, la croix? C'est un mystère à la croix. C'est une folie, la croix. C'est vrai, la croix. C'est un monument de supplice, la croix. C'est pas quelque chose de bien beau, la croix, quand on la regarde de manière belle. Et si je la regarde en tant que chrétien, la croix, il n'y a plus de supplicié sur la croix. Il n'y a plus de mort sur la croix. Il n'y a plus de sang qui coule sur la croix. Il a coulé le sang le jour sur la croix. C'est vrai qu'il a coulé. Mais cette croix, elle est vide. Pourquoi elle est vide? Pourquoi le jour le tombeau, il a été vide? Les hommes cherchent le tombeau de Jésus-Christ. Ils voudraient tellement le retrouver, je dirais quelque part, quelque reste, pour montrer à l'humanité que mais Jésus-Christ est mort, l'enterré, c'est fini, non. La croix, elle est vide, le tombeau, il est vide, parce que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, mais la chose la plus extraordinaire, la plus merveilleuse, la plus belle des richesses que je puisse recevoir aujourd'hui, que tu puisses recevoir aujourd'hui, c'est cette vie d'amour. Est-ce que vraiment tu vis cette vie? Ou est-ce que tu restes influencé par les choses que tu vois, par les choses que tu entends, par ce qui te perturbe, par ce que tu ne te plais pas? Parce que si je suis encore là-dedans, même si je suis chrétien, quelque part, je suis un pauvre. Je suis encore dans la pauvreté. Mais le Seigneur m'appelle à rentrer dans la richesse. L'homme naturel, quelque part, je vous l'ai dit, question. Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Est-ce que c'est simplement la mort et puis c'est fini, tout disparaît? Je n'existe plus, mais je n'existe plus du tout, non? D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder quand même comment elle se comporte de l'humanité très, très souvent. Quand ils sont dans le cimetière, quand ils parlent de leur défunt, ils disent « Hey, ils te voient là-haut, et ils prennent soin de toi. » Ordonnez-moi, c'est un super mensonge. Et pourtant, ils ont ce genre de raisonnement. Donc, quelque part, au fond d'eux-mêmes, ils croient à la vie éternelle. Et vous savez qu'il est écrit dans Ecclésiaste 3:11, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors, on peut se poser des questions sur ce verset. Si je vais dans Romains 1:19, il est écrit, en effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée, dépourvue d'intelligence, s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles. Ils mangent d'eau mortelle, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés. Aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est que tu le connaisses. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le passage nous dit, vous le connaissez parfaitement, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3:36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 4:14 nous dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Permettez-moi de continuer. Jean 4:36 nous dit, celui qui me moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Nous sommes appelés à la vie éternelle. On n'est que de passage sur cette terre. Vous savez, moi je me dis toujours combien Dieu nous aime. Dieu ne veut pas que les méchants périssent. Il veut qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Quel plus beau message peut-il y avoir? Les hommes aujourd'hui sont dans le désarroi, ils sont dans la peine, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont impuissants devant les éléments de la terre. Ils sont complètement impuissants. Pourtant, on pourrait dire technologiquement, on a fait des pas immenses. On a Internet, on a tellement de choses entre les mêmes, on peut le communiquer comme ça, presque instantanément. Et pourtant, quand les éléments se déchaînent, qu'est-ce que l'homme ne fait plus de paille? On peut lutter contre le feu, on peut arrêter le feu. Mais quand le vent se déchaîne, quand l'eau déferle, on ne peut rien faire. Ça nous dit de se préparer à la rencontre de notre Dieu. Combien on a besoin de se préparer à la rencontre de notre Dieu. La vie éternelle ne s'achète pas. Autrefois, dans une certaine religion, quelque part, on vendait le pardon aux hommes. Si vous étiez riche, vous donniez de l'argent et vous étiez pardonné de tous vos péchés. Et ça, c'est un mensonge. C'est une folie. Ce n'est même horrible, c'est satanique, c'est diabolique. Ne pas acheter le but du sang de Jésus. même l'homme le plus riche de cette terre, je ne sais plus combien il possède de milliards et de milliards, il ne peut pas s'acheter le but du sang de Jésus. Mais toi, peut-être ce matin qui te dit pauvre, regarde la richesse qui est entre tes mains. Parce que tu n'as pas eu besoin d'acheter le but du sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a lavé, il t'a purifié, il t'a changé, il t'a transformé. Vous vous rendez compte, petit peu, on ne peut pas acheter la vie éternelle. Je dirais quelque part en faisant des tas de bonnes œuvres, bien que nous soyons appelés à faire de bonnes œuvres. On ne peut pas acheter la vie éternelle que d'une seule et d'une manière, c'est en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est bon d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Je crois que je me dis, Seigneur, rien de plus terrible que quelqu'un qui avance dans la vie, qui est presque à la fin de sa vie, et qui n'a pas réalisé encore un jour vient. Où c'est que sa vie sur cette terre va s'éteindre, et il va rentrer dans une autre vie. Parce que l'homme ne voit jamais. Mais où va-t-elle? Nous voir aller ton âme ce matin, et te préparer à la rencontre de ton Dieu. Jean 17 nous dit quelque chose d'extraordinaire sur cette prière de Jésus. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, je vous l'ai dit, c'est qu'ils te connaissent. Et c'est un passage, ça, quelque part. Il me vient à l'esprit sans arrêt, constamment, pour m'être Jésus. Alors, je vous avouerai que je me suis rentré en moi-même et j'ai dit, Seigneur, pardon, est-ce que je te connais? Est-ce que je connais vraiment Jésus? Est-ce que vraiment je suis de ceux qui peuvent, j'oserais dire, sans orgueil aucun, dire je te connais Jésus? Bien sûr que vous pouvez le dire, bien sûr qu'on peut le dire. Mais si on va encore plus loin, il y a des moments où c'est que on a le doute. On a le doute parce que quelque part, peut-être qu'il y a de la culpabilité à nos cœurs, pour une raison ou pour une autre. Peut-être j'ai failli, dans un sens ou dans un autre, dans ma vie humaine, à une chose ou à une autre. Mais j'ai été un jour lavé, j'ai été purifié par le sang de Jésus à la croix du Calvaire. Et cet Esprit Saint qu'on a reçu n'est pas un esprit qui nous culpabilise, mais c'est un esprit qui nous amène à la repentance. Et vous savez comment la repentance amène à la vie. Et je retrouve la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Vous savez, l'apôtre Jean va témoigner d'une chose extraordinaire. Je ne sais pas comment on lit la parole de Dieu, comment vous lisez la parole de Dieu, mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, lisez-la. Je vous en prie, en tant qu'homme, je vous en supplie, parce que Dieu ne supplie jamais. Lisez la parole de Dieu. Lisez-la. Ce qui était dès le commencement, c'est Jean le même. Ce que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nous avons touché concernant la parole de vie, a été manifesté. Et nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée, nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Dites-moi, pour ceux qui sont enfermés dans le nom de Jésus, combien notre joie est grande quand on voit une âme passer de la mort à la vie. Et confesser le nom de Jésus, notre joie n'est-elle pas complète? De voir quelqu'un qui était mort, quelqu'un peut-être que l'on regardait comme les âmes, mais lui jamais la atteindra le salut, c'est impossible. Quel pécheur il est! Combien d'entre nous ont été des pécheurs invétérés. Et aujourd'hui, quand ils regardent leur vie passée, ils tirent le rideau. Hein? Mais ils remercient le Seigneur parce qu'il les a lavés, il les a purifiés. L'apôtre Paul va témoigner avec force et conviction, mais c'est quand même merveilleux ces passages. Parce qu'il va dire qui nous séparera de l'amour de Christ? Ne nous faites aucun souci, personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Personne, personne, personne. Même quand on est au plus bas, même quand on est en bas des marches complètement, au 10e sous-sol, au 50e sous-sol, personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est ça qui est extraordinaire. que je suis complètement abattu, que je suis complètement abîmé. Personne ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Il est là. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes morts tous les jours, que nous regardons comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce ne sont pas des mots. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui a été très finement inventé. On sait quelle est la parole de Dieu. On sait quelle est la vérité et la vie. C'est terrible, les hommes n'en veulent pas. Je le disais tout à l'heure, ils n'en veulent pas. Ils savent que la vie éternelle, elle existe, mais ils n'en veulent pas. Ou s'ils en veulent, ils en veulent à leurs conditions. Il n'y a pas de condition. En tant qu'enfant de Dieu, on est sous la condition de Dieu et de Jésus-Christ. On est des esclaves du Seigneur, des serviteurs du Dieu très haut. Mais comme je l'ai dit souvent, on est des esclaves sans chaîne, dans le sens humain du terme. Vous savez, Paul s'entend, ça fait un proche écrit, le moment de mon départ approche. Il savait, Paul, que c'était fini. Il savait quelle était sa fin et comment il allait mourir. C'est pas évident. Il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit. Le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je pense à nos frères et nos sœurs qui nous ont quittés, qui sont partis auprès du Très-Haut. Je suis persuadé que quelque part, ils ont lu les mêmes paroles. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je dis ça sans orgueil. On a dit ça sans aucun orgueil, sans aucune prétention. On n'est que des êtres humains de chair et de sang. Et la Bible dit qu'on est des serviteurs inutiles. Mais Dieu m'aime. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Et pouvoir dire quelque part un jour, j'ai achevé la course. Je me dis, Dieu Seigneur, mais c'est un extraordinaire de paix, de joie, de bonheur. Paul dira, je ne sais plus quel passage, qu'il lui tarde de rejoindre le royaume des cieux. Mais je n'étais pas encore ce jour-là, il y a le temps de Dieu. Je me disais, le Seigneur m'a dit, ta vie n'est pas finie. Comme fait de la vie, ben, il faut servir. Et je vous avouerai que moi, si j'ai écouté, mais il y a quelque chose en moi, mais si Seigneur me pousse. Et je crois qu'il est même pour vous, des fois, on a envie de se poser, de se reposer. Mais il y a une force au fond de nous-mêmes qui nous pousse. Allez, continuez. Continuez. Vous savez, Élie, quand on pense à Élie, ah, Élie, vous savez, qui n'aimerait pas être comme Élie? Ah, pourtant, Élie, hein, Élie, il est parti de la bonne femme, hein. Il avait peur. Il a dit, Seigneur, allez, tu me prends, maintenant je finis, hein. Je m'en vais. Mais non. Le Seigneur, il a nourri. Et il continue d'avancer. C'était pas le temps. Et le temps était proche, mais c'était pas encore un jour, c'était pas l'heure, c'était pas la minute. Pour ça que, voilà, il parle à ses frères et ses sœurs, à dire un jour à Timothée, quand il veut lui dire que le moment de mon départ approche, à Timothée, 6, 12 heures, il va lui dire, combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait la bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat, le bon combat. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais ça s'adresse à Timothée. Excusez-moi, mais on pourrait le traduire comme ça. Après ça, moi, un frère et une sœur à Guillaume, par exemple, je pourrais lui dire, combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait la confession en présence d'un grand nombre de témoins. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, réalisant l'amour de Christ, la bonté de Christ, réalisant le pardon de vos péchés, par où êtes-vous passé? Par les yeux du baptême. Et devant qui avez-vous vu un peu de rendu témoignage de ce que Jésus avait fait pour vous? Devant une foule de témoins. Dans ce passage, combat le bon combat de la foi, il ne s'adresse pas simplement à Timothée, il s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui. Le bon combat de la foi pour laquelle tu as été appelé, c'est vrai que Timothée avait reçu un certain ministère, mais qui oserait dire aujourd'hui, ce matin, moi, de Dieu, j'ai rien reçu, simplement de m'asseoir sur ma chaise et d'y demeurer. Le mensonge, ce n'est pas vrai. Chacun de nous a reçu de Dieu quelque chose. Et chacun de nous reçoit cette parole. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie latérale à laquelle tu es appelé. C'est à ça que nous sommes appelés. Je suis appelé, tu es appelé, nous sommes appelés à la vie éternelle. Je le répète encore, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Combat le bon combat de la foi. Bats-toi, engage-toi dans la bonne course, dans la bonne direction. Vous savez, l'enfant de Dieu, avoir reçu Jésus-Christ dans son cœur, malgré tout ce que nous pouvons être ou avoir été, malgré tous nos défauts, tous nos manquements, quand il y a cette crainte de Dieu dans le cœur, on ne se trompera jamais de route. On ne peut pas se tromper de route. Si vraiment j'ai cette crainte, cet amour de Dieu dans mon cœur, je ne peux pas me tromper de route. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu conduit toujours son enfant dans la bonne route, dans la bonne direction. Il n'aveugle pas ses yeux, mais au contraire. Il lui donne la lumière de la vie. Jésus a dit, je suis la lumière de la vie. Comment lisons-nous la parole de Dieu souvent? Des fois, on se bat contre des chimères. Des fois, on se bat contre des moulins à vent. Des fois, on se bat contre des frères et des sœurs. Et quand on se bat contre notre voisin, notre voisine, c'est pas ça qu'on est appelé. C'est pas évident d'être un enfant de Dieu, un soldat de Jésus-Christ. Comme il est écrit, il n'y a pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On les entend tellement souvent, ces passages qu'on pourrait dire, combien de fois on a entendu ça, mais est-ce que je rentre dans la réalité de ces passages, de cette parole? Est-ce que je veux y rentrer malgré toutes mes imperfections? Et je vous avouerai une chose très honnêtement, c'est que plus on avance, je dirais quelque part dans la vie avec Jésus-Christ, plus on se sent rien. Le plus vous choquez, le plus on est heureux. Parce que je sens la main de celui qui, malgré le fait que pour moi-même je ne sois rien, pour lui, je suis une créature merveilleuse. Vous savez, quand David dit, je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse, vous pourrez dire, qu'est-ce qui est merveilleux, David? C'est ça qu'il faut lui. David, il est conscient de ce qu'il est. Il est plus que conscient de ce qu'il est. Mais il sait qu'il est entre les mains du Seigneur de l'éternité. Formidable, ça, quand même. Combattre, c'est cette capacité, quelque part, à savoir s'examiner soi-même. Vous savez, c'est s'examiner soi-même. On peut faire des tas d'erreurs dans la vie. On peut se tromper tellement souvent que celui qui jamais ne s'est jamais trompé lève la main. Non, mais il est tellement bon de s'examiner. C'est ça la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Comment je le connaîtrai si je ne plonge pas mes regards dans la parole de Dieu? Comment je le connaîtrai si je ne m'embête pas de la parole de Dieu? Comment je le connaîtrai si quelque part, je ne veux pas que cette parole de Dieu rentre à moi et fasse son œuvre? M'examiner, et voir, accepter de voir, d'accepter profondément toutes mes erreurs, toutes mes défauts, toutes mes manquements. Et dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi. C'est un combat, vous croyez que c'est pas un combat? Le chrétien, c'est un combat permanent. On nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie, comme des fous. On est gênant sur cette terre, un jour vient où on va être très dérangeant. Très dérangeant. Le combat est là. La vie éternelle, ceux qui te connaissent. Oh, il a gravé tellement de problèmes, tellement de difficultés. Il a été lapidé, fouetté. C'est impressionnant tout ce qu'il a subi. Mais toujours, il avait le regard avec son Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, j'aime ce passage de notre frère Jérôme, pasteur de l'Église, nous l'a dit très brièvement dimanche dernier. Il est écrit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. C'est terrible comme passage. Parce que je peux dire, moi, le pauvre, je connais Jésus-Christ, j'aime Jésus-Christ. Et être là-dedans. Ça veut dire qu'on peut me dire ce qu'on voudra. Je ne veux rien entendre. Moi, je marche selon ce que je ressens. Je ne suis plus dans l'œuvre de Jésus-Christ. Je ne suis plus dans l'œuvre de Dieu. Sans me rendre compte que je suis dans l'œuvre de ma haine. Contrairement à celui qui se bat pour rester dans la course, c'est toujours bon combat, combat le bon combat de la foi, saisir la vie éternelle, pour laquelle nous on saisit, pardon, je me suis trompé, mais c'est pas grave, j'aime tellement la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde dans l'entrée de ma maison, car celui qui me trouve à découvrir la vie, il obtient la faveur de l'éternel. Heureux l'homme qui m'écoute, savoir écouter Dieu, savoir écouter Jésus-Christ, savoir, je dirais, dans le secret de sa chambre, sans faire de bruit, sans ouvrir la bouche, sans se répandre parfois en prière. Écoutez la voix de mon Seigneur. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus bénéfique. Est-ce que vous pouvez entendre dire qu'il vous aime? Ça, ça fait du bien. Et vous pouvez aussi entendre vous dire « Je ne suis pas satisfait de toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. » Pour payer telle ou telle position, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut l'accepter. Vous savez, quand le Seigneur nous parle, je vous dis toujours, je le sais, mais c'est Dieu qui nous parle. Les discours de Dieu sont pas longs. Ils viennent des fois juste en quelques mots. Mais ces mots vont au fond du cœur, ils vont au fond de l'âme, au fond de notre esprit. Et combien ils nous aident, ils nous guérissent, ils nous sauvent, ils nous élèvent, ils nous illuminent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le royaume de Dieu, la vie éternelle, qui est encore semblable à un trésor caché dans un champ, c'est Matthieu 13, 44, qui nous dit, l'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, il achète ce champ. Il y a un homme qui l'a fait. Beaucoup l'ont fait, bien sûr. Mais il y a un homme en particulier qui l'a fait. Il s'appelle Zachée. Il a acheté ce champ. Vous savez, Zachée, quand on le vit plus profondément, c'est un extraordinaire lâché, ce petit homme, qui a couru vers un sycomore pour se cacher, pour voir Jésus-Christ. Je dis là, il ne nous verra pas, mais moi je le verrai. Pour se cacher, Dieu nous voit. Dieu nous voit toujours. Et sachez que son âme devant le Seigneur lui dit, Seigneur, je donne pour la moitié de mes biens, si j'ai fait le tour à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ce n'est pas pour rien que Jésus va dire le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. En fait, c'est quand on comprend Zachée, il est prêt à tout donner. Il est prêt à tout donner. Il est prêt à tout donner. Le double, le quadruple, il est prêt à tout donner. Si j'ai fait, il est prêt à tout donner contrairement aux gens riches. Ce que Jésus veut lui dire, vends tout ce que tu as. Comme un pauvre, viens chez moi. Je vous demande, je n'ai rien compris. Il n'a rien compris, il ne semble pas tout triste, mais Zachée, il est tellement heureux, tellement heureux, tellement heureux, tellement heureux. Zachée, il était riche. Enfin, il était riche. Mais il était prêt à devenir pauvre. Parce qu'il avait découvert la vraie richesse. La vraie richesse, je vous le répète encore, c'est la vie éternelle. C'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est formidable quand même. L'apôtre Paul nous dit, dans Actes 24, je ne fais pour moi-même au contraire de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Oui. Tu veux continuer la vie. Quelqu'un me dit qu'il ne tient pas la vie. Non, je ne voulais pas le croire, je ne le croirais pas. On tient à la vie. croire en créant cette dimension de la vie éternelle, en remettant notre vie comme premier de Dieu, parce qu'elle est précieuse, je le répète, elle est tellement précieuse, notre vie entre les mains du Seigneur. Parce que notre vie, le Seigneur dans sa main, il la tient tout au long de notre existence terrestre. Je vous le disais tout à l'heure, des fois on se croit pauvre, on s'imagine qu'on n'a rien, ou qu'on n'a rien eu dans nos vies, et quand on réfléchit, il ne nous a manqué jamais de rien. On a toujours eu le nécessaire. C'est une grâce. Et c'est ça qui compte. Je le fais pour moi-même au contraire de ma vie. Je la remets entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas évident, mais le premier qui me parle, je vous assure que c'est un sujet de prière, parce que des fois je me dis, Seigneur, mon Dieu, mais éclaire-moi, montre-moi. Ce n'est pas évident, c'est un combat permanent. Mais combien je veux saisir cette main, cette opportunité. Les hommes marchent vers rien. Les hommes marchent vers la mort. Les hommes marchent vers l'inconnu. C'est terrible, c'est horrible. Dieu ne veut pas ça. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Tous. Pas un seul ne se perde. Pas un. Parce que vous savez, dans le ciel, il y a de la place. C'est pas la terre. La terre est toute petite. Mais dans le ciel, c'est infiniment grand. C'est énorme, c'est extraordinaire. Et voilà, les hommes n'en veulent pas. C'est là la foi de celui qui se confie vraiment à l'Éternel, celui qui marche vraiment avec Jésus tous les jours de sa vie, va recevoir de lui, je dirais quelque part la manne cachée, il va recevoir le pain du ciel, il va recevoir cette eau vive. Vous savez, la Samaritaine, elle allait boire, elle allait chercher de l'eau, elle allait à midi parce qu'elle n'avait pas envie que quelqu'un la voie, parce que sa vie n'était pas déshonorable aux yeux des hommes. Et Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et il va lui dire, l'eau qu'elle boit là, ça ne désaltère pas, mais que l'eau que vous lui donnez, c'est vraiment la vie éternelle. Il n'aura plus jamais soif, elle n'a pas compris. Imaginez un petit peu si vous n'avez plus à vous dépasser, même pas à toucher le robinet. Quand vous voulez de l'eau, elle vient toute seule. Mais non, ça, c'est pas réel, humainement parlant. Et l'eau du ciel. La grâce, la bonté, les merveilles de Dieu, ses bénédictions, ses grâces, toutes choses, elle les a. Elles sont à portée de nous-mêmes. Vous savez, Matthieu 19, 39, nous dit, et croyez-moi, je suis pas loin de la fin, quiconque va quitter à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le sanctuaire et héritera la vie éternelle. Attention, attention. Je ne vous ai pas dit de quitter votre mère, mon frère, vos soeurs. Attention, ce n'est pas ça que ça veut dire. Attention. Attention, ne prenez jamais ce passage à la lettre, humainement parlant. La lettre tue l'esprit vivifie. Ça veut dire que quelque part, je peux être rejeté par ma famille, je peux être rejeté par les miennes, à cause de ma foi en Jésus-Christ. Mais en Christ, je retrouverai des pères, des mères, des frères, des sœurs. Mais j'oserais dire encore une fois, si mes parents, mes frères, mes sœurs, qui eux ne connaissent pas le Seigneur, un jour ont décidé de m'ouvrir leurs portes, je vais revenir vers eux. Parce que notre mission, ce n'est pas de les écarter de notre vie, c'est de les emmener à Jésus-Christ. Et je me permets simplement d'ouvrir une parenthèse et de la refermer. Regardez le prophète Daniel. Pas moi. Pas du tout. Mais le prophète Daniel, après une vie de service absolu, le Seigneur va lui dire, et toi, marche vers ta fin, et tu reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin de tes jours. C'est pas beau quand même. Notre version nous dit, et toi, Daniel, reste fidèle jusqu'au bout. Alors tu pourras te reposer, et tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Daniel 12:3 nous dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il est un homme, il s'appelait Siméon. Vous connaissez l'histoire de Siméon. C'est vrai qu'elle est pas longue, l'histoire de Siméon. Quand on réfléchit encore une fois, c'est un homme qui a toujours été au service de son Seigneur et de son Sauveur. La parole de Dieu nous dit dans Luc 2:25, cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant à Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » C'est pas beau, ça? Honnêtement, c'est pas merveilleux. Marcher dans la présence de Dieu. Marcher avec le Seigneur. Hein? Marcher de progrès en progrès. 1 Jean 2,3 nous dit, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est plus en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. » Jean 6,47, j'ai relevé tellement de passages qui se parlent de la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6,54 me dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6,68 nous dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 10,28 nous dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Amen, Seigneur, combien nous te rendons grâce et nous te bénissons. Combien tu es glorieux, combien tu es majestueux, combien je suis petit devant toi, Seigneur. Mon Dieu, quelle grâce merveilleuse, quel amour, mon Dieu, sans fin, sans borne, Seigneur, mon Dieu Père, et incommensurable, Seigneur, mon Dieu Père, mais toi, tu es amour pour nous, Seigneur. Père, puisse simplement ce matin ta parole avoir touché un cœur, une âme, l'esprit. Puisse ta parole, Seigneur, avoir porté du fruit, Seigneur, mon Dieu Père. Puisse ta parole, Seigneur, mon Dieu, faire comprendre, faire saisir à plusieurs la vie éternelle, mon Dieu, Seigneur Jésus. Pardon. Sur cette terre, mais pour l'éternité avec toi, dans le nom de Jésus. Tu es merveilleux et tu es glorieux, Seigneur. Et mon âme te bénit. Nos âmes te bénissent ce matin. Père Saint, c'est avec foi, Seigneur, que je te confie mes frères et mes sœurs et tous ceux et celles qui sont là ce matin, peut-être encore ne t'appartiennent pas, afin qu'ils t'appartiennent, afin qu'ils te connaissent et que eux aussi saisissent la vie éternelle dans le nom de Jésus. Amen.